Bon, alors moi je vais essayer de cadrer comme tu m'as dit quand on s'est téléphoné, c'est-à-dire un quart d'heure, si je peux. Hein, voilà. Je propose de suivre un chemin qui, dans une certaine mesure, est le mien, et sur, je pense, deux ou trois points, ça doit être en tangence avec ce que j'ai vu dans ton projet de livre, enfin que j'ai pas complètement travaillé, parce que moi je suis un lecteur lent. Et puis je voudrais terminer par une question assez massive de position globale sur pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on dit ce qu'on dit. Bon, je m'excuse, enfin je vous prie de m'excuser aussi pour le caractère un peu rapide de certaines de mes affirmations. Je pourrais, avec un peu de temps, quand même, disons, être un peu plus subtil dans les affirmations. Donc moi je pense que le sensible, parce que le livre part de là, hein, dans la référence à Schiller, il s'agit au fond de savoir comment, ou à Kant, comment s'articulent le sensible et l'intelligible. Il me semble, tout compte fait, que le sensible, pour ce que je propose d'appeler l'être humain au monde, puisqu'on peut supposer qu'il y a d'autres êtres au monde que l'humain, l'animal par exemple, mais disons pour ce mode d'être au monde qu'on pourrait être fondé à appeler humain, et dont on cherche ce qu'il caractérise, ce qu'il définirait, puisque dans ta réponse, en tout cas, tu en as parlé. Le sensible, pour cet être-là, ne me semble pas être le nom d'une simple expérience de réceptivité, voire d'examen au monde. Bon, cette distinction entre les deux termes, elle vient pour moi d'une lecture de Leroy Gourhan, dont tu viens également de parler. Il me semble qu'on peut dégager de la lecture de Leroy Gourhan une espèce de théorie de la perception ou d'un concept de la perception disant que l'être au monde commence à percevoir à partir du moment où il est capable de dégager l'un ou l'autre de ses sens des obligations fonctionnelles. Donc, par exemple, percevoir, voir, être dans la perception visuelle ou dans la perception auditive, etc., ça veut dire qu'on peut finalement être attentif à ce qui vient parce que l'audition ou la vue ne sont pas prises par des fonctions. Alors à ce moment-là, c'est une théorie de la perception qui implique de lier le fait de percevoir non pas à la notion de réceptivité, mais bien à celle d'examen du monde. Donc, par exemple, entre Leroy Gourhan et Kant, du coup, le vocabulaire pour définir ce que c'est que la sensibilité est loin d'être le même. Bon, bref, disons que le sensible pour l'être humain au monde ne me semble pas être le nom de la simple expérience de la réceptivité ou de l'examen du monde, c'est aussi le fait d'une production. C'est-à-dire que ce qui caractériserait la sensibilité humaine, c'est qu'elle se produit elle-même, dans une certaine mesure au moins. Par exemple, l'être humain au monde se donne à voir, il se donne à entendre, il se donne d'ailleurs aussi à écrire, etc. Alors, ce qui fait cette production, ou ce qui fait cette réceptivité réfléchie, hein, ce qu'il y a dans l'expression le se faire voir, le se faire entendre, etc., qu'on pourrait aussi appeler, si on parlait un peu grec, mais alors vraiment grec, pas dans les traductions, mimésis. Bon. Ce fait que l'être humain au monde se donne à voir, se donne à entendre, ce qui fait que qu'il y a cette réceptivité réfléchie, et ce qui fait ça, c'est justement l'appareil. Enfin, par exemple, est-ce que c'est une définition sur laquelle on pourrait être d'accord? C'est, mettons, une question. Bon, c'est l'appareil. Alors, une fois qu'on a admis cette définition, il me semble, moi, que l'enjeu pour nous, alors je laisse en suspens la définition du nous, j'y reviens dans quelques secondes, l'enjeu, c'est le degré de crypte de l'appareil producteur du. Ou des appareils producteurs du sensible ou du mode humain de la sensibilité. J'en vois trois degrés de crypte de l'appareil. Je prends le mot crypte exprès parce que vous allez voir pourquoi, parce que dans la première définition du sublime chez Longin, c'est le mot qui apparaît pour définir la figure. Il y a sublime lorsque la figure ou la figuration est cryptée. C'est une traduction littérale du texte de Longin. Donc moi, je vois 3 degrés de crypte possibles pour tout appareil producteur de la sensibilité humaine. Soit il y a le degré de crypte qui caractérise le sublime, soit le divertissement, soit, bon, pour aller vite, la distanciation. Je pense, là aussi, pour le dire de façon très, très rapide, que l'industrie, y compris en prenant le mot dans son sens ancien, celui du XVIIe, ou son sens étymologique, l'industrie est une tendance à crypter les appareils, hein, c'est-à-dire à leur faire produire des effets sans qu'ils apparaissent eux-mêmes comme des producteurs. Donc la logique de l'industrie, c'est toujours le sublime ou la sublimation, c'est-à-dire la crypte maximum de l'appareil. Donc maintenant, je vois ça. 3 modes possibles de crypte pour quelque appareil que ce soit, le sublime, le divertissement, la distanciation, pour emprunter un terme dont vous savez très bien qu'il est très connoté. Alors s'il faut plaider entre ces 3 modes, je plaiderai pour le dernier que j'ai dit, c'est-à-dire celui de la distanciation, mode dans lequel s'expose non seulement imperceptible, c'est-à-dire si, disons, l'appareil est lui-même appareillé de façon distanciée, s'il tourne dans ce sens-là, disons, eh bien, en même temps que je vois par son fait, je vois le fait qu'il fait. Donc il y a une espèce de double degré, et peut-être malgré tout on pourrait définir dans cette différence-là, pour moi en tout cas, quelque chose comme une conscience. Moi, je définirais la conscience dans ce moment-là où l'appareil apparaît en même temps que ce qu'il montre. Bon. Donc je plaiderais, s'il fallait, pour ce mode-là, pour des raisons qui seront trop longues à développer ici globalement. Ce qui m'intéresse, c'est de définir, au fond, ce qui se passe pour nous lorsque la production du sensible s'expose elle-même dans le sensible, et inversement, qu'est-ce qui se passe pour nous quand, au lieu de s'exposer, elle se glorifie, hein, c'est-à-dire on passe par les modes du divertissement ou de la sublimation, etc. Et c'est-à-dire, au fond, on n'aperçoit pas les conditions mêmes de la perception. Qu'est-ce qui se passe quand on n'aperçoit pas qu'on perçoit, et qu'est-ce qui nous fait percevoir, et qu'est-ce qui se passe au contraire quand avec la perception vient la perception du fait même de percevoir. Quelle est la différence pour nous? Est-ce que c'est une différence intéressante? Est-ce que ça vaut le coup de réfléchir à ça? Voilà les questions qui m'intéressent. Alors évidemment, il me semble qu'il y a une grande tradition du poétique en général, je ne confonds pas avec la poésie, hein, une grande définition du poétique en général qui consiste, les poètes sont, les poètes en ce sens-là sont ceux qui justement parviennent à la glorification maximum. Et donc si on rapporte ça au vocabulaire de notre temps, on pourrait dire que les industriels sont en ce sens-là de grands poètes, hein, parce que justement la tendance est de nous faire un monde dont les conditions même de perceptibilité s'effacent. C'est ce qui fait que, par exemple, la plupart du temps, dans un film, on ne voit pas le fait du film. Et on peut, au lieu de dire ce qu'on a vu à la sortie du film, on dit l'histoire, qu'on n'a évidemment pas vue, parce que l'histoire, ça se raconte, enfin, c'est autre chose. Mais ce passage du visible ce passage littéralement idéologique du visible au logique est précisément une opération de poétisation maximum. On pourrait dire ça comme ça. Alors, bon. Est-ce que ça vaut le coup, et pourquoi il y a ça déjà, et est-ce que ça vaut le coup d'éviter, si on peut, que ça se produise? Hein, donc voilà. La réponse globale, je dirais que c'est que les effets ne sont pas les mêmes suivant l'un ou l'autre mode, suivant que l'appareil tourne dans le sens du sublime, ou dans le sens du divertissement, ou dans le sens de la distance. Les effets ne sont pas les mêmes, non pas sur le commun. Le commun est de toute façon banal, c'est sa définition même. Alors on pourrait dire aussi que là, il me semble que d'après ce que tu viens de dire et ce que j'ai lu, peut-être tu m'accorderais ça, le peuple est de toute façon le banal, pardon, le commun pourrait être aussi défini comme étant le peuple inventeur, hein, ce qui fait qu'il y a justement les accidents dont tu parlais tout à l'heure. Il semble que les inventions sont toujours populaires. Alors on fait l'étymologie du mot peuple, et on sait que ça veut dire réparti sur un territoire. ça que ça veut dire. Hein. Donc, évidemment, il y a toujours des inventions qui se produisent quelque part. Elles sont populaires en ce sens-là, comme disait Baudelaire pour s'en moquer quand il, dans le fameux texte où il critique la photographie, répandue parmi le peuple. Hein. Donc, c'est le commun est répandu, le commun est banal. Ou pour prendre un mot qui est là ici pris dans son sens étymologique, le premier que Platon lui donne avant de lui donner un autre sens dans le Timée, c'est le mot de démiurge. Hein, parce que dans démiurge, il y a démos et il y a ergon, le travail. Donc la démiurgie, littéralement, c'est le travail du peuple. Dans le premier grec, c'est ça que ça veut dire. Avant d'être et le démiurge de Platon dans le Timée, il est pensé sur le modèle de la démiurgie. Du peuple athénien qui produit sans qu'on voit jamais d'où ça sort. Voilà. Donc, de toute façon, c'est ça le commun et les appareils n'affectent pas cette espèce d'énergie du commun par rapport à quoi il se passera toujours quelque chose. Hein, mais peut-être la modification des appareils. La façon dont il tourne, ce sur quoi ça peut avoir un effet, c'est sur la figure du commun, c'est-à-dire la façon dont on prend identité, ou la façon dont le peuple s'identifie. Quelque chose comme ça. Donc l'enjeu peut-être de la conduite des appareils, dans un sens ou dans l'autre, dans une tournure ou dans une autre, ça serait l'identité populaire, hein, l'identification, la figure du commun plutôt que la constitution du commun lui-même. Alors ça pourrait être une question. Si tu serais d'accord avec, est-ce que tu serais d'accord avec cette affirmation-là que l'enjeu de la, moi je dis la conduite des appareils, donc ça veut dire qu'il y a une conduite, hein, et est-ce que on pourrait dire c'est la figure du commun qui se joue à chaque fois qu'un appareil est conduit d'une certaine manière. La question est de savoir, par exemple, globalement, s'il y en a un, où est l'intérêt de l'humanité dans tout ça, hein, finalement, est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit sublimé, diverti ou distancié? Voilà. Qu'est-ce qui vaut mieux pour nous? Pour nous, alors, dans l'ensemble, pour nous, en tant qu'identité définie, c'est pas la même réponse. Peut-être que ce qui serait intéressant pour l'ensemble de l'humanité, c'est pas forcément ce qui est intéressant pour telle ou telle figure. Telle ou telle communauté identifiée, etc. Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Où est l'intérêt de l'humanité dans tout ça? Et peut-être aussi, alors pour moi, ça serait la définition de la culture, au sens où, tout simplement, banalement, cultiver, ça veut dire trier, hein, garder cette plante et jeter celle-ci, donc faire des discriminations. Qu'est-ce qu'il vaut mieux cultiver? Voilà. Qu'est-ce qu'il vaut mieux cultiver comme conduite d'appareil, celle-ci ou celle-là, si quelque chose doit être majoré, par exemple, on peut dire finalement c'est quand même bon pour nous qu'il y ait du divertissement, voilà, parce que ça pacifie, ça c'est pas, il me semble que c'est une des grandes choses qu'on peut lire dans Aristote, ça, finalement la pacification est l'effet d'un est le résultat d'un certain traitement de la mimésis d'une certaine manière et au fond ça fait passer des souffrances. Hein, donc c'est bon, voilà. On peut dire ça. On a intérêt au divertissement, à majorer cette conduite d'appareil parce que bon, elle produit cet effet qu'on peut juger important. Alors, est-ce que une fois que j'ai dit tout ça, je suis d'accord avec une conception de l'appareil? Je crois avoir lu ça dans ton texte comme média. Il me semble qu'à un moment où tu dis ça, tu dis que tu n'es pas d'accord. Bon, bah alors, c'est que j'ai mal lu, donc tu vas rectifier. Donc, enfin, il y a deux sens du mot média, il m'a semblé dans ton texte. Ah non, pas masse média. Non, non, ça j'ai bien compris. Il me semble qu'il y a quelque part quand même le mot média qui, il me semble que c'est vers le début. Bon. Médiation, enfin, il y a quelque chose de ce type-là quand même. Bon, alors voilà. Est-ce que quand je dis ce que je dis, je suis en accord avec cette conception de l'appareil comme médiation, disons, ou comme mode de l'enregistrement? Pour nous, alors, ben, j'en suis pas sûr, en tout cas pour moi c'est une question, c'est-à-dire qu'en fait la question porte sur le statut du concept d'enregistrement dans ton propos, et s'il y a une réserve, peut-être que c'est là qu'elle porterait. Je comprends bien l'analyse qui dit qu'une, l'analyse que tu fais qui dit qu'une œuvre doit trouver son public et que par conséquent si c'est une œuvre, elle peut pas être reconnue, c'est la différence entre une œuvre et Amélie Poulain. qui ne pose évidemment pas de problème, qui étant immédiatement reconnu, ça n'a pas besoin de la médiation de quoi que ce soit, en fait ne s'enregistre pas comme une œuvre, peut-être même d'ailleurs ne s'enregistre pas, parce elle nous fait rien. Pour qu'il y ait œuvre, il faut que l'œuvre trouve son public, et donc pour ça, il faut qu'il y ait des conditions à cette émergence du public, et c'est là que je crois que tu places l'appareil. L'appareil étant ce qui permet justement à un public de se constituer, c'est-à-dire à une expérience de se partager. Bon. Et donc finalement à une œuvre d'advenir. Donc si je comprends bien cette analyse, si je comprends bien aussi que le devenir œuvre ou la constitution du public qui fait l'œuvre demande son temps et ne peut se produire elle-même qu'en divisant, hein, tu dis qu'une œuvre ne peut exister comme œuvre qu'en divisant son public, je comprends ça, mais je suis peut-être enfin, plus perplexe quant à la notion d'enregistrement. Qui me semble être, le mot que je veux dire n'est pas du tout péjoratif, mais un succès d'année de l'inscription dans l'expression que tu empruntes à Lyotard, dans le chapitre sur Lyotard, de surface d'inscription. Ça réapparaît à ce moment-là. Alors, peut-être une question conceptuelle que je pose, quel est le rapport entre ce que tu dis de l'enregistrement et ce que Lyotard disait de la surface d'inscription et de la notion d'inscription, hein, en particulier? Peut-être aussi penses-tu que la notion d'inscription ou celle d'enregistrement sont assez proches de ce que Benjamin appelait la reproduction, ce dont je ne suis pas pour ma part complètement convaincu. Alors, il me semble utile de mon point de vue de comprendre la reproduction non pas comme un phénomène de culture. Par quoi se comprend ce qui fait autorité à une époque, et je suis quand même d'accord qu'il y a ce sens-là chez Benjamin, en particulier dans les premières pages de l'œuvre d'art à l'ère de sa reproduction mécanisée. Il me semble que la reproduction peut être comprise, donc plutôt que comme un phénomène de culture, elle peut être comprise comme un phénomène technique qui absente le lieu. Hein, c'est-à-dire que finalement. Simplement, si c'est un phénomène technique, il n'y a peut-être pas eu toujours enregistrement. C'est-à-dire que l'enregistrement, pour moi, serait un moment de l'histoire de la technique et non pas finalement une structure de la culture, comme il me semble que c'est dans ton propos. L'enregistrement serait donc un phénomène technique qui est lié à cette époque où il ne se passe pas quelque chose quelque part. Donc la structure de base de l'expérience à ce moment-là, c'est pas le ici et maintenant, c'est le ici et là. Il ne peut se passer quelque chose que si la chose est déjà enregistrée, c'est-à-dire démultipliée au moment même où elle apparaît à quelque conscience, mais là je garde le mot, à quelque conscience que ce soit. Il me semble que les appareils qui sont mis au point depuis la photographie sont des appareils qui divisent originairement, qui portent atteinte à la structure foncière de toute phénoménologie qui est cette structure du ici et maintenant, qui fait qu'on ne comprendrait l'être au monde que comme une histoire du développement de cette expérience-là, hein, donc ici et maintenant, donc ça donnera, si on doit raconter, c'est un jour là-bas, hein, etc. Bon, voilà, il me semble que les appareils mis au point depuis la photographie divisent originairement, ils portent atteinte à cette structure foncière de la phénoménologie qu'est le ici et maintenant, à toute cette façon particulière d'ordonner l'espace, le temps, la mémoire et les synthèses. Ça serait plus une discussion que j'aimerais avoir avec Bernard Stiegler sur la question des synthèses, peut-être aussi à propos du numérique, mais là ça serait trop long. Peut-être que les appareils développés depuis la photographie exigent de penser les synthèses autrement que sur la base de la phénoménologie. Alors, tout ce développement de l'appareil fait qu'au fond, peut-être. Les êtres humains au monde, les êtres humains qui sont sensibles au monde sous ce régime-là d'appareil n'ont pas besoin de théâtre, de salles de cinéma, etc. Et que la question finalement qui est en train de se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors que finalement les appareils avec lesquels nous passons des choses les uns aux autres, nous les faisons passer, sont des appareils qui ne requièrent pas tous ces dispositifs qui ont eu leur raison d'être au temps où l'expérience était structurée par le ici et maintenant, hein, par exemple. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de notre culture au sens banal du terme, hein, c'est-à-dire de notre héritage, nos patrimoines, enfin voilà. Bon, je ne sais pas. Moi, pour ma part, je me suis intéressé particulièrement sur ces questions à Dan Graham et cette année plus spécifiquement un musicien comme Glenn Gould qui est, vous savez, celui qui a affirmé que le concert était quelque chose de complètement périmé, ça n'avait plus et qui dit sur l'enregistrement des choses absolument absolument et sur la division du lieu même de constitution de la musique des choses absolument passionnantes. Peut-être que ce qui va résulter de tout ça, je ne sais pas au juste, mais ça pourrait être, j'ai terminé maintenant, quelque chose que j'appellerais non pas du désintérêt pour la notion de conscience, mais quelque chose qui serait de l'ordre d'une relativisation de la subjectivité politique. Hein. C'est-à-dire que, au fond, si l'expérience est structurée par le ici et maintenant, il faut bien qu'on se parle pour se dire ce qui s'est passé un jour là-bas. Hein, c'est toute la question de la tradition. Dans l'époque dominée par les appareils d'enregistrement, où tout est toujours déjà originairement divisé et démultiplié, est-ce que la parole garde un rôle si important? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est de la subjectivité politique? Peut-être s'agit-il de penser que l'expérience est toujours déjà entamée, dans tous les sens de cette expression, de ce mot, que l'expérience est toujours déjà entamée quand elle est dite. Et que, au fond, elle ne s'inscrit en aucune rhétorique, et que finalement, l'histoire des appareils conduit, en tout cas en ce moment, à ce que le mécanique, les arts mécaniques, débordent le littéraire. Et finalement, c'est pour ça que je pense que cette expression doit être à peu près juste. L'expérience est toujours déjà entamée et elle ne s'inscrit pas. Dans aucun discours. C'est autour de la notion d'inscription que mes questions en fait portent. Voilà. Le mécanique me semble donc déborder le littéraire et ça c'est l'occasion pour moi très longtemps après. Moi j'ai pas été un disciple de Lyotard, mais disons ce que j'ai compris du différent, c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter. Le fait qu'il n'y a pas de relève de l'expérience de la sensibilité, il n'y a pas de relève de la sensibilité donc de l'être à de l'être au monde dans aucun genre de discours. Voilà. Et je me demande si finalement, il me semble que dans le passage sur Lyotard, dans le livre, tu dis ça, où tu acceptes cette idée qu'il y a un différent entre les genres de discours. Je me demande, moi, si le différent n'est pas entre la sensibilité et les discours. Et si c'est le cas, ben, c'est la notion même d'inscription qui est problématique.